franceinter.fr.
Que se passe-t-il sous les grands glaciers alpins? C'est la question à laquelle vous avez tenté de répondre Frédéric Herrmann et Olivier Bessac. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue. Frédéric Herrmann, vous êtes avec nous depuis Lausanne. Vous travaillez à l'université. Et puis Olivier Bessac, vous travaillez à l'Institut de physique des matériaux et de cosmochimie à Paris. Alors vos travaux sont aujourd'hui en couverture de la revue Science. Alors félicitations.
Merci.
Parce que vous avez percé un des grands mystères concernant les glaciers autour du mécanisme d'érosion. Frédéric Herrmann, avant de nous livrer votre découverte, comment fonctionne l'érosion justement?
Bonjour. Donc, on a montré dans cette étude que l'érosion est proportionnelle à la vitesse de glissement du glacier et cette dépendance est au carré.
Et l'érosion, exactement, qu'est-ce que c'est?
Donc, l'érosion, donc ici principalement, c'est dominé par le processus d'abrasion. Donc, on a des débris dans la glace qui vont abrader la roche en dessous et produire des sédiments qui ressortent du glacier.
Donc une formule au carré, hein, si je vous ai bien compris, hein, c'est ça. Hein,
vous êtes dans,
oui,
la bonne émission.
Ça, oui.
Voilà, donc exactement, vous êtes au bon endroit pour en parler. Olivier Bessac, comment est-ce que vous faites pour aller voir ce qui se passe sous les glaciers? Comment on procède alors?
Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas aller sous les glaciers, donc ouais. on a procédé indirectement. Et les particules qui sont générées par cette érosion, on s'est dit d'où viennent-elles et on a essayé de voir quelle est leur quantité. Donc d'une part, on a mesuré cette quantité en mesurant le débit et la concentration de ces particules dans le ruisseau sous le glacier.
Mm-hmm.
Et d'autre part, on a cherché un traceur qui nous permettait de dire telle particule vient de tel endroit du glacier. Et ça, pour ça, on s'est intéressé au graphite qui est contenu dans les roches qui sont érodées par le glacier, à la structure de ce graphite qui montre des variations très importantes tout au long du profil du glacier.
Mmh.
Et pour ça, on a utilisé une technique de spectroscopie Raman, qui nous permet de décrire cette structure à la fois dans les roches sources et aussi dans les particules. Et en comparant l'une avec l'autre, on est capable de dire telle ou telle particule vient de tel endroit du glacier.
Donc il y a une sorte de mémoire de la roche aussi qui est inscrite et que vous pouvez réutiliser.
Exactement,
pour vos calculs.
C'est-à-dire que cette structure du graphite dont je parlais, elle a été façonnée par l'histoire géologique de cette roche, notamment l'enfouissement et la température à laquelle a été soumise cette roche.
Mm-hmm.
Et l'idée, c'est que quand la roche va être érodée, elle va lâcher ces petites particules de graphite que nous, on va retrouver plus bas à la sortie du glacier et on va pouvoir dire, en regardant le spectre, c'est comparable avec un spectre que je retrouve là-haut dans la montagne à tel endroit.
Frédéric Herrmann, depuis longtemps, on sait que les glaciers modèlent le paysage. Est-ce que votre étude va permettre de connaître mieux les paysages alpins aujourd'hui?
Oui et non. Enfin, on savait quand. Enfin, on a une idée de la forme des paysages, mais on n'avait pas d'idée précise sur la physique des processus. Donc, il y a plusieurs théories, et notre étude a permis d'avoir des contraintes sur la physique. Et donc, dans le futur, on pourra construire de meilleurs modèles pour essayer de voir, de quantifier l'évolution des paysages.
Et qu'est-ce que vous avez vu alors exactement sur la physique des glaciers?
On voit en fait donc cette loi non linéaire. Elle correspond au développement théorique qui a été effectué dans les années 70, qui retombait sur cette loi d'abrasion dont je parlais avant.
Et donc, autour de la vitesse, qu'est-ce que vous avez compris?
Par rapport à la vitesse?
La vitesse des glaces.
C'est la vitesse de glissement de la glace.
Oui.
C'est ça, oui.
Excusez-moi. Allez-y.
Et donc, en fait, si on refait une théorie de physique de base, on peut retomber sur la loi qu'on a démontrée empiriquement sur le terrain.
Mmh.
Olivier Bézac, est-ce que vos découvertes peuvent être liées à des mécanismes de réchauffement climatique aujourd'hui?
Alors non, on va pas trop spéculer. Nos découvertes, elles s'intéressent vraiment à l'aspect érosion. Alors cette érosion, comme le disait Frédéric, ce taux d'érosion, il est lié à la vitesse de glissement du glacier. La vitesse de glissement du glacier, elle est contrôlée par différents paramètres. Il y a un paramètre physique, et la topographie du glacier. Alors plus c'est pentu, plus ça glisse. D'autres paramètres comme la température, plus c'est chaud et plus le glacier fond et je retrouve de l'eau sous mon glacier, et ça va favoriser, ça va lubrifier, et ça va glisser et ça va éroder. Ou alors l'autre paramètre, ce sont les précipitations. Plus il pleut ou plus il neige, plus j'alimente mon glacier, plus je crée de la glace et plus je vais glisser. Donc on peut voir que le climat influence sur ce taux d'érosion, mais dans le sens inverse, je ne suis pas capable de dire est-ce que mon taux d'érosion va lui influer sur le climat ou pas.
Mmh. Si le climat est plus chaud et qu'il pleut plus, on a plus d'érosion. La question, c'est est-ce que ça peut générer des inquiétudes?
Alors, quand le climat se réchauffe, mon glacier fond aussi, il va devenir de plus en plus petit. Donc il y a aussi cet effet-là. Donc des inquiétudes, et ça va générer le principal message qu'on veut dire, c'est si j'augmente la vitesse de mon glacier par deux, je vais augmenter le taux de sédiments que je relâche de mon glacier par 4. Par 10, je vais multiplier par 100 ce taux de sédiments. Donc ça veut dire qu'en aval, je vais générer des quantités de sédiments qui peuvent être assez importantes. Et une des questions, c'est qu'est-ce qu'il advient de ces sédiments? Est-ce qu'ils vont rester dans les rivières? Est-ce qu'ils vont aller se mettre dans les lacs de barrage? Ce genre de questions. Après ça, sur des risques sociétaux, non, j'en ai pas à vous donner comme ça directement.
Vous avez étudié un glacier en Nouvelle-Zélande, c'est ça?
Oui.
Alors, en quoi ces résultats, justement, peuvent être généralisés à nos glaciers alpins, par exemple?
Alors, la Nouvelle-Zélande, pourquoi la Nouvelle-Zélande?
Pourquoi vous êtes allé là-bas, ouais.
Alors, on aurait pu aller dans les Alpes, effectivement.
Ouais.
Alors, on est là en Nouvelle-Zélande parce que c'est une zone tempérée. Hein, la latitude en degrés sud est équivalente à peu près à celle de nos glaciers alpins en Europe. L'idée, c'est que c'est une zone tempérée où il y a des précipitations qui sont énormes. Et comme je le disais, plus il y a de précipitations et plus mon glacier va être dynamique. Donc là-bas, il pleut à peu près 12 mètres par an, ce qui est colossal. Hein, c'est un des endroits dans le monde où il pleut beaucoup. C'est un glacier qui est très pentu. Et puis, il y avait aussi des conditions d'accès au glacier, à la sortie du glacier, qui faisaient que les choses étaient faisables pour poser les stations de mesure pendant plusieurs mois.
Mmh. Axel ?
Parmi ces sédiments, Frédéric Herman, on trouve du graphite, c'est du carbone piégé dans des roches. Est-ce que ce carbone peut se retrouver dans l'atmosphère d'une manière ou d'une autre, si on imagine des glaciers alpins, par exemple, dans les Alpes ?
Pour cette question-là, c'est plus la spécialité d'Olivier, mais on voit que les chaînes de montagne, en général, et l'érosion des chaînes de montagne, jouent un rôle assez important dans le cycle du carbone en général. Donc en effet, ça peut avoir un effet. Pour le quantifier de façon précise, c'est pas exactement le but de notre étude.
Olivier Bessac, un complément de réponse.
L'idée, c'est qu'on utilise ce traceur, je vous disais, du graphite. Le graphite, c'est un minéral qui contient le carbone, au même titre que le diamant. Et l'idée, donc il est sous forme solide. Et quand je vais libérer ce graphite, que je vais le remettre en circulation, je vais l'exposer à la... Il était piégé dans une roche, je le mets en circulation à la surface terrestre. Et potentiellement, ce graphite, soit il va rester sous forme solide et retourner dans l'océan, soit il peut être désagrégé, il peut être oxydé et retourner sous forme de CO2 atmosphérique. Donc une des questions qu'on peut se poser maintenant, c'est qu'une fois que j'ai remis en circulation ce carbone solide, qu'est-ce qu'il advient de ce carbone solide? Est-ce qu'il est repiégé ou est-ce qu'il retourne dans l'atmosphère. Mmh. S'il retourne dans l'atmosphère, il peut être influent sur les concentrations de carbone atmosphérique. Alors, sur des termes beaucoup plus longs que les problèmes de réchauffement climatique au sujet desquels on discute beaucoup en ce moment.
Ouais, Frédéric Herman, pour terminer, toutes ces nouvelles connaissances là, que vous apportez grâce à votre étude, ça va permettre de mieux comprendre la formation des paysages de montagne plus généralement ?
Oui, je pense en fait. C'est assez spectaculaire. On est assez content d'avoir obtenu ce résultat. Et en plus, il y a une étude qui a été publiée une semaine avant dans Nature. C'était une étude en Patagonie et en Antarctique et il retombe exactement sur la même loi. Et donc, ça nous donne vraiment des contraintes robustes pour pouvoir extrapoler sur des échelles de temps plus longues et donc comprendre comment les paysages se sont formés.
Et ce qui vous donne droit donc à la couverture de Science, c'est quand même pas mal. Ça vous a surpris ou pas d'ailleurs?
Oui, bien sûr, ça nous a surpris, ouais. on était assez contents, mais...
J'imagine.
Avec une belle illustration d'ailleurs.
Oui, très belle photo à la couve de Science, et des journalistes qui vous appellent du monde entier en fait, c'est ça, pour avoir des explications.
On a eu pas mal de...
Bah, l'équipe est internationale, hein, il y a des gens de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, donc ça fait pas mal de bruit. Ouais.
Félicitations à tous les deux, et puis aux autres équipes qui ont travaillé donc sur cette étude, Frédéric Herman et Olivier Bessac, merci d'être passés à la une de la science aujourd'hui. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la température corporelle des dinosaures identifiée par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles qui a réussi donc à estimer la température corporelle des dinosaures vieux de 80 millions d'années à partir de l'étude de leurs œufs fossilisés. Ainsi, la chaleur de leur corps était variable d'une espèce à l'autre et dépendait surtout de leur taille. On peut s'en douter, la température des plus gros dinosaures comme les sauropodes au long cou était de 38 degrés, tandis que celle des oviraptoridés proches des oiseaux actuels est estimée à 32 degrés. Toujours une question de température, si vous êtes né en été, vous avez plus de chances d'être en bonne santé. C'est ce qu'en tout cas ce que des chercheurs de l'université Cambridge avancent grâce à une étude statistique menée sur les données de santé de 450 000 Britanniques. Ils estiment que naître sous le soleil protégerait de certaines maladies, mais éviterait également une puberté trop précoce. L'étude montre également que les bébés nés en juin, juillet ou août sont plus lourds à la naissance et deviennent plus grands à l'âge adulte. En revanche, le mois de naissance n'aurait aucune influence sur l'indice de masse corporelle de l'adulte et donc sur notre corpulence. Et puis la vidéo du jour, c'est celle d'un cachet effervescent dans une bulle d'eau en apesanteur. Cette vidéo, publiée par la NASA, a été réalisée dans le but de tester une caméra ultra performante depuis la Station Spatiale Internationale. L'effet du cachet dans cette bulle d'eau est assez surprenant et très beau à voir. Vidéo donc à découvrir sur la page Facebook de la Tête au Carré et en lien sur notre compte Twitter.